Chapitre 36. Désert de l'Aralkoum, Kazakhstan.
Alors, commandant, ils sont là ?
Oui, ils sont là.
Artem avait réglé ses lunettes longue-vue sur la distance maximale, 1500 mètres.
Et, on fait quoi, commandant ?
Akinis, d'un signe de main agacé, fit signe à Nocera, l'un des 20 hommes du commando du bureau d'investigation criminelle, de se taire. Concentré.
Ils font quoi, chef ?
Insista l'agent Parenti, accroupi lui aussi derrière le bloc de rocher. Artem soupira ostensiblement, même s'il comprenait l'impatience de ces hommes. Parenti se recroquevilla à l'abri du rocher. Le commandant scrutait l'objectif depuis plusieurs minutes, entouré des autres membres du commando, tous dissimulés derrière le piton rocheux qui les protégeait à peine de la pluie battante. Sans rien leur dire. Qu'aurait-il pu leur dire, d'ailleurs ? Que Lilio de Castro et Cléophée Loisel se tenaient, là, à portée de lunettes, près du bateau rouillé ? Qu'il n'avait eu aucun mal à les repérer en interceptant le message de Cléophée à sa mère, d'abord, envoyé du musée de la locomotion à Amsterdam, puis par les vidéos postées sur les réseaux sociaux montrant deux étranges touristes poussant des vélos ? Les traqueurs informatiques du BIC avaient immédiatement identifié de Castro et Loisel, mais s'étaient téléportés quelques minutes trop tard à Samarcande. Le journaliste et l'institutrice avaient déjà disparu. Plus aucune trace d'eux jusqu'à ce que le signal d'un TPC apparaisse, provenant de Sébastien Miranda, un vieil ermite chilien censé habiter dans une cabane de la cordillère de Patagonie et qui pourtant tentait de se téléporter du Kazakhstan, quelque part au cœur de l'Aralkoum, une zone strictement rendue taboue, c'est-à-dire interdite à toute téléportation. Aucun doute, c'était eux. Qu'ils aient tenté d'activer leur TPC en zone taboue témoignait d'un amateurisme déconcertant. L'agent Leduc avait mis moins de 3 minutes à retrouver le cadavre de Miranda, sans aucun TPC au poignet, enterré dans le potager derrière sa maison de bois, avec vue sur le Lago del Desierto, pendant qu'Artem demandait d'urgence à Pangaya l'autorisation de se téléporter sur la zone taboue, avec 20 hommes. Il s'était posté à proximité suffisante pour les avoir en point de mire, sans être repéré. Qu'est-ce qu'Artem aurait pu dire d'autre à ces hommes ? Que les deux fugitifs faisaient l'amour sous la pluie artificielle de l'Organisation mondiale du climat ? Que cette femme y prenait un plaisir sauvage ? Qu'Artem ressentait une impression étrange à les observer ainsi, comme si cette femme était en danger ? Non pas que ce journaliste représente la moindre menace, Artem était persuadé que de Castro n'avait rien à voir avec les attentats, qu'il n'était qu'un reporter à la recherche de sujets sensationnels. Mais le commandant ne parvenait pas à repousser une intuition tenace. Ce journaliste prenait des risques inconsidérés, dont ni lui ni Cléophée Loisel n'avaient conscience. Lorsque leur vie serait réellement en péril, ce Lilio de Castro serait incapable de protéger cette femme qui se donnait à lui, cette femme qui lui faisait confiance, cette femme qui le suivait les yeux fermés ou grands ouverts et offrait sa jouissance au désert, cette femme qui le troublait. Depuis qu'il lui avait tendu la main dans la favela de Mangueira. Cette femme si différente de Marianne, cette femme dont il devait cesser de fixer le balancement des seins, le mouvement du bassin, le va-et-vient des reins.
« Chef, on intervient ?»
insista cette fois l'agent Bizet.
« On en a un peu marre de se faire saucer. On se téléporte en cercle autour d'eux, un saut de puce et hop, on les coffre et on rentre chez nous au sec. »«
Non, on attend, » répondit distraitement Artem.
Un mouvement de grogne parcourut l'ensemble du commando. Patienter n'était pas le point fort de cette troupe d'élite habituée à se déplacer aux quatre coins du monde pour des interventions express. Aucun des hommes ne savait ce que les deux fugitifs tramaient. Le commandant Akinis avait exigé d'être le seul à utiliser les lunettes longue-vue. L'absence d'informations, l'attente, l'averse qui les noyait, tout se cumulait pour les déconcerter. Qu'est-ce que le commandant attendait ? Dans les lunettes, Artem observa la jeune femme laisser retomber son corps sur celui du journaliste épuisé. La pluie rebondissait en fines gouttelettes sur sa peau. Il devinait la suite. Ils avaleraient 2 capsulas, recueilleraient un peu d'eau de pluie, referaient l'amour plusieurs fois dans la nuit.
« On attend quoi ?»
s'énerva Nocera. Artem laissa enfin pendre ses lunettes à son cou.
On attend demain matin. »
La grogne redoubla dans les rangs. Avait-il bien entendu ? Demain matin ? Le commandant lissa ses longs cheveux trempés contre sa nuque.
« Écoutez les gars, ce type et sa copine sont venus jusqu'ici à vélo. Impossible pour eux de se téléporter, toute la zone est bouclée par Pangaïa. Nous sommes les seuls à pouvoir nous téléporter sur tout le Kazakhstan. Alors on est patient et on attend. Ils ne peuvent pas s'envoler. »
« On attend quoi ?»
répéta Parenti, une tête brûlée réputée pour aimer les commandos kangourous. Artem souffla. Même s'il ne révélait pas tout à ses hommes, son plan était clair dans sa tête.
« Vous êtes dans la confidence, les gars. Je vous fais pas un dessin. Ces enfoirés de l'Organisation Militaire Mondiale ont planqué des assignés Liberstados sur ce territoire. Ils nous mettent au courant seulement maintenant parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce journaliste est censé les rencontrer, donc on attend, comme dans un bon vieux safari, on attend que les gazelles viennent boire au point d'eau. Les assignés vont s'approcher. Ça vous dit pas d'en voir un pour de vrai ?»
Les hommes commençaient à comprendre. Le commandant voulait faire d'une pierre deux coups. Coincer les fugitifs et attraper dans le même filet les dissidents. Sauf que tous étaient conscients de l'étendue du Kazakhstan et que rien ne prouvait que les assignés, surtout s'ils se baladaient à pied, aient repéré le journaliste et la femme.
« On attend jusqu'au lever du jour, » confirma Artem. « On passe la nuit ici, bien caché, et on les garde à l'œil. Si rien n'a bougé d'ici là, on les cueille. »
Avec mauvaise grâce, les membres du commando déplièrent les bâches de camouflage dont ils détestaient se servir. Au moins, se cacher dessous les protégerait de la pluie. D'ailleurs, tous connaissaient l'heure exacte à laquelle elles cesseraient de tomber, dans précisément 1h06.
« Ceux qui veulent rentrer chez eux saluer leur famille peuvent le faire, » toléra Artem. « Mais interdiction de quitter la zone plus de 5 minutes. Et je veux un minimum de 15 hommes sur place en permanence. Organisez les rotations comme vous voulez. »
Les hommes apprécièrent. Rien de plus stupide que de rester planté, à planquer, alors qu'en 30 secondes, on peut aller embrasser sa femme ou ses enfants avant qu'ils dorment. Artem profita de l'agitation du commando et de son éphémère regain d'entrain pour ajuster les lunettes devant ses yeux. Lilio et Cléophée s'étaient assis, adossés à la coque du bateau rouillé. Le journaliste avait étalé une grande bâche sortie de son sac à dos, et tous les deux se tenaient dessous, nus et impudiques, amoureux et joyeux, en tentant de recueillir un peu d'eau de pluie entre leurs doigts. Ils passeraient la nuit ainsi. Artem fut à nouveau saisi par ce sentiment troublant. Cette femme, cette institutrice, n'avait rien à faire ici, dans cette histoire qui mettait en jeu les plus grands secrets de l'humanité. Elle était trop jeune, trop innocente, trop fragile. Ce journaliste n'était qu'un salaud de l'avoir entraîné dans cette folie. Il comprenait pourtant pourquoi. Tout comme il commençait à mieux identifier le sentiment qui le troublait. Il observa une dernière fois la jeune institutrice rire aux éclats, embrasser le journaliste, poser sa tête contre son épaule en fermant les yeux, en les entr'ouvrant pour profiter des derniers rayons du soleil au-dessus des monts Mougodjar. De la jalousie.